Radio Star Bell.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et vous le saviez, vous, qu'il était encore là, bien vivant, bien actif, surtout dans le Chiapas, le sous-commandant Marco. C'est bien, vous allez le rencontrer, grâce à François-Xavier Freland, qui est allé à sa rencontre au fin fond donc du Mexique, sous les radars, et Amélie Perrier, vous avez entendu, au Congo, au Kenya et au Japon. 18h50, le cinéma en VO, avec le fameux Vice, Dick Cheney, sa marque indélébile sur les États-Unis. C'est Eva Bétan qui nous racontera ça. 18h55, Le Monde à l'envers, signé Cyril Sauvageau. Ce soir, vous verrez que les Allemands sont aussi inquiets que nous, de leurs chiffres sur l'antisémitisme. Avant cela, nous allons en Haïti. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Des scènes de chaos, des émeutes qui ne faiblissent pas, une colère qui ne retombe pas une fois de plus, j'allais dire. Ça va mal, c'est le président qui est visé en Haïti. 8e jour d'émeutes, des heures qui ont commencé symboliquement d'ailleurs le 7 février. Et le 7 février, c'est le jour anniversaire du départ des Duvaliers. Bonsoir Éric Sorem.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en droit public, vous êtes spécialiste des institutions haïtiennes. Pardon de commencer comme ça, mais oui. Est-ce que cette fois, parce que le problème en Haïti, c'est qu'on dit toujours... Cette fois, par rapport aux précédentes, est-ce que cette fois c'est plus grave que les précédentes? Est-ce que cette crise est plus violente que, par exemple, depuis que celle qui a soulevé le pays au moment des Duvaliers? Est-ce qu'on est dans ce registre-là?
C'est plus grave. C'est plus grave parce que, pour une fois, vous avez un président qui n'a presque plus de soutien. La plupart du temps, vous avez un affrontement politique en Haïti, vous avez deux camps bien identifiés, et parfois trois. Mmh. Là, il y a une sorte de consensus sur l'idée suivante, c'est que le président Jovenel Moïse est dépassé par la situation et il n'y a plus grand monde autour de lui.
Est-ce qu'on parle d'émeutes de la faim? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Alors, on parle beaucoup de corruption, on va y venir. D'ailleurs, on va revenir sur l'affaire qui secoue très très fort Jovenel Moïse. Mais on entend des gens qui disent on a faim. Enfin, je veux dire, Haïti a toujours été l'un des pays les plus pauvres. Mais là, pour le coup, particulièrement 15% d'inflation, une dette galopante.
Il ne s'agit pas uniquement d'émeutes. Mm-hmm. Il s'agit, de vandalisme, d'actes de violence. C'est une société qui est au bord de l'affrontement. Alors, on ne va pas parler de guerre civile parce que les citoyens haïtiens sont assez intelligents et pourraient éviter des dérapages de cette sorte. Néanmoins, oui, les gens ont faim, il y a une misère, il y a une pauvreté. Et ce qui est paradoxal, c'est que le président Jovenel Moïse est arrivé avec un slogan de la nourriture dans les assiettes et de l'argent dans les poches. Et aujourd'hui, eh bien, il n'y a ni l'un ni l'autre.
Et en même temps, si Éric Sauré, on se souvient des conditions dans lesquelles il est arrivé. Oui. On a parfois la mémoire un peu trop courte. Il y avait de l'espoir, mais ça a été extrêmement long. Il a fallu que le deuxième tour soit reculé avant d'être mis en place. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà, au moment de cette élection, il y a 2 ans, les prémices de ce qui est en train de se passer aujourd'hui?
C'est toujours la même chose en Haïti. Mmh. Avant toute élection, il y a toujours ces problèmes. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait quand même un espoir. Il a été élu avec... près de 600 000 personnes, c'est très peu pour une population qui avoisine.
Il y a eu 20% de participation, c'est faible. Ridicule. Hein,
c'est donc terrible, effectivement, hein. Sa légitimité était un peu étroite. Mm-hmm. Mais les citoyens pensaient que venant de la paysannerie, venant d'une classe modeste d'Haïti, il avait une compréhension des problèmes. Il leur ressemblait. Et cela étant dit, c'est pour ça qu'il a été choisi par le président Martelly, c'était un mauvais choix. On ne choisit pas les gens parce qu'ils ressemblent à la population. On choisit les gens, surtout dans le cas d'Haïti, parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont de l'expérience. Monsieur Jovenel était compétent pour diriger une entreprise, néanmoins, il n'avait pas d'expérience politique. Gouverner Haïti, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'a pas de solution. Alors, il avait lancé à son arrivée au pouvoir une caravane, il avait parlé d'états généraux sectoriels. Mm-hmm. Il avait lancé ça, ça fait 2 ans que ça tourne. Il n'y a aucune solution. Et aujourd'hui, il n'a plus de cartes à jouer, il n'a plus de solution à proposer aux citoyens pour sortir de la crise et surtout répondre aux demandes, c'est-à-dire à les demandes contre la pauvreté et surtout les demandes de justice avec l'affaire Petrocaribe.
Alors, on va y venir. Je voudrais, juste avant qu'on aille dans la rue, écoutez ce que disent les gens en ce moment à Port-au-Prince, c'est grâce à Amélie Baron d'RFI. Écoutez.
J'ai entendu qu'il y avait des petits programmes d'assainissement, que cela allait créer 50 000 emplois. Donc aux jeunes qui sortent de l'université, il n'y avait que des balais à leur donner. Cela n'est pas possible. Mes parents ne se sont pas sacrifiés pour me payer l'école depuis la maternelle jusqu'à l'université pour que j'aie comme choix de balayer la rue. Ce type nous manque de respect.
Tous les prix ont augmenté, tout est cher. On ne peut plus rien acheter, même le pain est cher. J'aimerais que la vie change vraiment, parce que je n'en peux plus. On ne peut plus supporter ça. La faim est devenue trop forte pour nous. On souffre aujourd'hui, on souffrira demain, et tout est difficile dans le pays. On n'a plus d'argent pour vivre.
Jovenel n'a rien résolu dans le pays. Ça fait 2 ans qu'il est là et il n'a rien fait. Donc il n'a plus rien à faire encore. Tout le peuple haïtien a gagné les rues pour dire au président Jovenel de revenir à la raison.
Et
si Jovenel n'arrive pas à raisonner, il va en payer les conséquences et entraîner avec lui la bourgeoisie méchante, corrompue. S'il ne change pas, plus il attendra, pire ce sera.
On demande le départ du président. On ne veut pas négocier avec lui. On veut sa démission. Qu'il aille au pénitencier pour qu'on puisse lui prendre quand on voudra le juger.
Éric Sorel, il y a 2 choses que j'entends dans ces extraits grâce à Amélie Baron. D'abord, ce premier jeune homme, on a l'impression c'est une génération sacrifiée qui parle. Voilà un garçon qui dit « Mes parents se sont saignés aux quatre veines pour me payer des études. J'ai été jusqu'à la fac et tout ce qu'on me propose, c'est de balayer la fac. »
Oui, et c'est triste. Mm-hmm. C'est triste. Cela étant dit, je pense que dans 2 ans, d'autres diront la même chose que lui. Il y a 2 ans, d'autres avaient dit la même chose. Parce que tout simplement, on est en Haïti dans une situation de désespoir. Et malheureusement, l'histoire d'Haïti nous apprend qu'à peu près tous les 2 ans, 2 ans et demi, le pouvoir change de main. Et donc, il y a une précarité du pouvoir et on ne peut rien attendre de la classe politique. Et c'est cela le drame d'Haïti. Et l'autre drame, c'est que cette fois-ci, la population a compris qu'en réalité, ce qui se joue là, ce n'est pas vraiment une histoire de départ de Jovenel ou de son remplacement par l'opposition. C'est qu'en réalité, il y a une lutte sourde entre les franges, entre les branches de la bourgeoisie. Et c'est plutôt cela. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas encore de solution trouvée. C'est que les gens n'ont pas encore compris ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est une guerre très rude entre des branches de la bourgeoisie, non pas pour sortir Haïti de ses problèmes, mais pour se partager, redistribuer les cartes.
Quel gâteau ?
Il y a un gâteau. Contrairement à ce qu'on croit, Haïti, qu'on dit être un pays pauvre, ne l'est pas. La bourgeoisie haïtienne est très riche. La bourgeoisie haïtienne a beaucoup de moyens et les gens le savent. Ce étant dit, ce n'est pas parce que la bourgeoisie ne le veut pas que ça n'avance pas. C'est parce que l'État haïtien est faible. C'est
et
toute la difficulté.
La bourgeoisie haïtienne est riche de quoi ? Est-ce qu'elle est riche notamment de la corruption ? On va venir à ce fameux scandale Pétro-Caraïbe, effectivement. Est-ce qu'elle est riche de ça ? Elle est riche de quoi, en fait ?
Elle est riche des terres héritées depuis la colonisation, depuis l'indépendance d'Haïti. Elle est riche de ses entreprises, parce que la bourgeoisie haïtienne, pour ses des entreprises. Elle est riche de sa position de courtier. Hein. C'est une bourgeoisie d'intermédiaire qui fait du courtage finalement pour tout ce qui entre dans le pays. Elle est riche de ses franchises douanières. Elle est riche des du pouvoir politique qu'elle détient en manipulant les uns et les autres. Donc c'est une bourgeoisie qui n'a aucune difficulté. De toute façon, quelle que soit la situation, elle s'en sort. Elle s'en sort bien. Et puis parce qu'elle gère tout ce qui arrive en Haïti, l'aide internationale, etc. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ce qu'on demande, et c'est là la difficulté. Ce que les citoyens haïtiens demandent, c'est un peu de redistribution, c'est un peu de partage, c'est un peu d'investissement, ce qu'ils ne voient pas arriver, parce que c'est une bourgeoisie, ce qui se dit depuis longtemps, qui n'est pas une bourgeoisie nationale. Et c'est-à-dire que les gens attendent que cette bourgeoisie-là prenne les choses en main et qu'elle aide à créer un État un peu plus puissant, capable d'avoir des recettes fiscales et surtout capable de gérer les fonds, notamment les fonds pétro-caribéens.
Alors, les fameux fonds pétro-caribéens, effectivement, pour expliquer ça très simplement, ce sont des fonds vénézuéliens, en fait, qui sont censés être réinvestis, redistribués, on va dire.
Alors,
sauf qu'au passage, et alors on parle de combien ? 2 milliards, c'est ça ?
2 milliards, plus de 2 milliards. 2 milliards, 300 millions, etc.
Dont alors, on demande aujourd'hui au président Moïse où ils sont passés.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas au président Moïse de rendre des comptes, c'est à tous ceux qui ont gouverné Haïti depuis 2008, c'est-à-dire tous les premiers ministres et tous les présidents, bon il y en a un qui est décédé, c'est René Prel, mais tous les autres. Et alors de quoi il s'agit ? Il s'agit effectivement de fonds publics, ce ne sont pas des fonds vénézuéliens, ce sont des fonds qui sont issus du pétrole vendu à Haïti par le Venezuela.
Exactement.
À un prix favorable, et ensuite Haïti ne payait pas tout de suite. Haïti payait une partie entre 30 et 70% et tout le reste devait être payé sur 25 ans. Donc tout le reste était des fonds de l'État haïtien, mais qui devait être transformés en dette sur 25 ans. Et ces fonds qui étaient disponibles devaient être investis dans des actions sociales pour aider la population à sortir de la pauvreté. C'est Chavez qui avait initié cela. Eh bien, il se trouve que tous les gouvernants, les premiers, les présidents, les premiers ministres, tous les ministres, les directeurs généraux, en réalité, toutes les élites politiques, administratives et économiques d'Haïti ont volé l'argent. C'est de cela dont il s'agit.
Et jusqu'à Moïse, jusqu'au président Moïse.
Alors, le président Moïse, alors, avant, sous sa présidence, il y a eu des accords, dans ce, enfin, en tout cas, des autorisations qui ont été données. Mais lui, on le cite parce que déjà, lui, avant d'être président, son entreprise, une de ses entreprises, a bénéficié d'un contrat comme d'autres entreprises. Ce qu'on sait, c'est que les contrats ont été passés. En revanche, il y a eu des irrégularités. Les travaux n'ont pas été accomplis. Autrement dit, c'était de faux contrats et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on a quand même un pays, pour que les gens comprennent, avec des gens qui ont géré l'équivalent du budget du ministère de la Culture en France, et ils ont tous pas... Il n'y en a pas eu un seul pour dire aux autres que ça ne se fait pas dans un pays pauvre. Ils ont dilapidé plus de 2 milliards 300 millions d'euros de dollars, ce qui est incompréhensible. Et le pire, c'est que la justice est incapable de monter un dossier sérieux.
Incapable ou corrompu elle-même? Ou les deux, mon capitaine?
Les deux, les deux. Parce que quand on est incapable, c'est que la plupart du temps, il y a un peu de corruption. C'est-à-dire que, mais c'est toute l'histoire d'Haïti. C'est toute l'histoire d'Haïti. Et c'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas un pays pauvre. C'est un pays riche de ses habitants. C'est un pays où il y a de la richesse, où il peut y avoir de l'argent, où il peut y avoir des fonds. Le seul problème, c'est que les fonds ont toujours été dilapidés. Et la bourgeoisie haïtienne, oui, on pourrait citer les noms, on ne le fera pas. Mais il y a beaucoup d'entreprises de la bourgeoisie haïtienne qui ont signé des contrats avec l'État haïtien.
Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est pas le pouvoir qui corrompt, en l'occurrence, puisque ça date de bien
c'est
avant, y compris quand on parle du président haïtien aujourd'hui.
C'est toute la société, et en réalité, le Pétro-Caribé nous met en face d'un pays où toutes les élites ont échoué. On nous met en face d'un ce qu'on doit appeler, qualifier d'échec collectif, et c'est cela qu'il faut comprendre.
Est-ce que c'est pour ça que le pouvoir est totalement silencieux depuis 8 jours, n'a absolument rien dit? Est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'ils ont les mains sales, en gros, et en particulier d'ailleurs le président Moïse aussi?
Il ne peut rien faire, le président Moïse, parce que déjà il est concerné, donc il y aurait un problème de conflit d'intérêts. Ensuite, la plupart de ses parrains politiques sont concernés, sont cités. Alors, pour ce qui le concerne, on va faire un peu de droit très rapidement. Lui, il était chef d'entreprise quand il a bénéficié des fonds. Donc aujourd'hui, en tant que président, il ne peut pas en répondre. Ensuite, on a un régime mixte parlementaire en Haïti. Donc par définition, le président est irresponsable des actes, puisque les actes ont été signés par ses premiers ministres et ses ministres. Donc il s'agit quand même, il revient à ces personnes-là d'abord d'y répondre. Ensuite, on pourrait voir si, à titre personnel, pendant qu'il était président, il en a profité. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'avant d'être président, il avait une entreprise et il en avait profité.
Éric Sauré, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? D'abord, est-ce que c'est pas pire, au fond, s'il démissionne et s'il s'en va, Jovenel Moïse? Qu'est-ce qui peut se passer derrière, à part, vous nous l'avez décrit, le vide? En fait, donc le vide, c'est une sorte de chaos aussi. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce que c'est moins pire hein, s'il reste ou pas?
Comme je vous l'ai dit, tous les 2 ans, voilà. Donc dans 2 ans, on recommencera. Voilà. Donc ce n'est pas un souci. Et puis, il n'y aura pas de vide institutionnel parce que dans la Constitution, il est prévu soit le Premier ministre, soit un président, le président de la Cour de cassation. Il y a eu toujours des solutions politiques de cette manière-là. C'est-à-dire, il y aura une présidence provisoire, ce qui est malheureux. Personne ne le souhaite pour un pays. Sauf qu'en Haïti, c'est comme ça que ça fonctionne tous les 2-3 ans parce que c'est aussi un peuple. Mais ce n'est pas depuis l'indépendance d'Haïti. Depuis le temps, le Saint-Domingue, les gouverneurs ne restaient pas en place très longtemps, 1 an, 2 ans. Donc on a une continuité historique. Non, ce qu'il faut souhaiter pour Haïti, c'est que cette fois-ci, les gens s'engagent enfin dans une vraie réflexion sur ce que c'est que construire un État. Ce qui n'a pas été fait. Le président Moïse est arrivé avec des concepts, mais il n'avait pas de penseurs autour de lui.
Mais pourquoi le ferait-il aujourd'hui, en fait? Ont-ils les moyens de le faire aujourd'hui, puisqu'ils ne l'ont pas fait il y a 2 ans?
Oui, cette fois-ci, ils en sont conscients. L'Église catholique a sorti une note pour en parler. La plupart des institutions de la société civile ont sorti des communiqués pour expliquer que cette fois-ci, l'heure est grave et qu'il faut enfin repenser le contrat social. Et je crois que pour nous, ici, en tout cas en France, ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas trop comment Haïti va s'en sortir. Haïti va s'en sortir, mais c'est surtout, est-ce que Haïti va enfin prendre conscience de son poids, de son intérêt dans l'histoire du monde? Est-ce que Haïti va enfin repenser son contrat social?
Et on croise les doigts pour votre petit pays, Éric Sauré. Merci beaucoup. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Merci.
France Inter. Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde avec les apatistes du sous-commandant Marcos, figurez-vous. Mais oui, on le croyait presque oublié, mais il est toujours là, sous un autre nom. Et c'est François-Xavier Frolland qui nous raconte ça dans un instant, puisqu'il l'a rencontré sous les radars et Amélie Perrier, au Japon notamment, qui soutient sa nageuse la plus prometteuse et populaire, qui vient d'apprendre qu'elle souffrait d'une leucémie. Le cinéma en VO, Eva Bétan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez de la chance, vous avez vu Vice, Dictionnaire raconté au cinéma.
Peut-être bien que c'est un film d'horreur, finalement.
Ah, bah ça, oui, je vous crois bien, ouais. C'est aussi un film inter, donc allez-y doucement quand même. Allez, tout
non,
à l'heure.
Film d'horreur chaîné, pas
oui,
le
j'ai
film.
Oui, j'ai bien compris, on a bien compris. Cyril Sauvageau, bonsoir.
Bonsoir.
Le Monde à l'envers avec vous tout à l'heure à 18h55. Nous, on regarde nos chiffres de l'antisémitisme avec effroi, mais l'Allemagne aussi, en fait.
Hein. Oui, c'est particulièrement douloureux, sans doute, compte tenu de l'histoire très particulière de l'Allemagne.
Allez, on voit ça tout à l'heure ensemble. Le tour de la planète continue, il passe par les États-Unis avec Beyrouth. Gallipoli sur France Inter. Américains de Beyrouth sur France Inter, Gallipoli dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Amélie Perrier, on commence avec une campagne de vaccination contre Ebola qui tourne au scandale au Congo.
Ce sont les ONG là-bas en République démocratique du Congo qui tirent la sonnette d'alarme. La fièvre hémorragique fait des ravages. Depuis l'été dernier, 811 cas recensés, 510 malades en sont morts. Un vaccin expérimental est très prometteur. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mise tous ses espoirs sur lui pour endiguer l'épidémie. Écoutez ce médecin de l'UNICEF.
Moi, j'ai bénéficié aussi du vaccin. On doit toujours se protéger. Par exemple, comme vous voyez derrière moi, il y a les lave-mains. Toute personne qui entre et qui sort doit se laver les mains. C'est aussi des mesures de protection. Tout cela, tout celui qui entre, qui est dans le centre de traitement, doit avoir le maximum de protection, de tenue de protection. Et nous pensons aussi, parce que vacciner, c'est protéger, vacciner, c'est aimer.
Voilà, de gros efforts pour convaincre les habitants de se faire vacciner. Mais les autorités ne parviennent pas à contenir l'épidémie pour l'instant. Premier problème, l'instabilité sécuritaire dans la région de Beni, les attaques à répétition des civils par les miliciens des ADF. Deuxième souci, les violences sexuelles et sexistes sont récurrentes et perturbent les opérations de vaccination. Des rumeurs de plus en plus insistantes, par exemple, racontent que des femmes travaillant sur la lutte contre Ebola ont trouvé des emplois en échange de relations sexuelles. Troisième problème, il est lié, les organisations humanitaires font face à la méfiance de la population. Beaucoup d'habitants croient que les ONG ont inventé Ebola pour gagner de l'argent. Gros travail donc pour restaurer la confiance et éviter que l'épidémie ne continue sa progression. Car la quatrième difficulté, c'est la grande mobilité des populations là-bas. Si l'épidémie n'est pas contrôlée, le virus pourrait passer en Ouganda, au Rwanda ou encore au Sud-Soudan.
Au Kenya, Amélie, le pays entier se demandait où était passée Caroline Emwa.
Oui, Caroline Mwata a finalement été retrouvée. Enfin, son corps, en fait, a été identifié à la morgue de Nairobi. Tous les médias là-bas en parlent.
The family of the late Caroline Mwatha has positively identified the body that is couple of minutes ago.
Voilà, toutes les chaînes d'infos continuent sont sur le même registre, dénouement tragique pour Caroline Mwatha, une figure au Kenya, une militante des droits humains disparue depuis une semaine. Des ONG comme Amnesty International s'étaient publiquement inquiétées car Caroline Mwatha gênait les pouvoirs publics. Elle était engagée dans la dénonciation des crimes commis par la police kenyane, les exécutions extrajudiciaires. Pour l'instant, aucun lien n'est prouvé entre son militantisme et sa mort. Caroline était enceinte de 5 mois. Des médias évoquent un avortement qui aurait mal tourné. L'avortement est illégal au Kenya. Un propriétaire d'une clinique et un médecin viennent d'avouer avoir apporté le cadavre à la mort sous un faux nom et selon leur version, elle serait morte d'une diarrhée. La famille demande elle, une autopsie, elle craint qu'on veuille étouffer la vérité. Des circonstances obscures, donc encore, mais qui mettent de toute façon la lumière sur les combats menés par cette militante des droits humains, aujourd'hui pleurée dans tout le pays.
Le Japon pleure aussi l'une de ses héroïnes.
La jeune nageuse Rikako Ide, c'était le plus grand espoir de médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain. Ide Rikako, voilà, c'était l'une de ses victoires lors des championnats du Japon. Alors, sauf que la pauvre nageuse, elle a 18 ans seulement, elle vient de découvrir qu'elle souffrait d'une leucémie, elle l'a annoncé publiquement. « Je n'arrive toujours pas à y croire moi-même », écrit Rikako sur son compte Twitter. L'an dernier, elle était devenue la star de son pays en remportant 6 médailles d'or aux Jeux Asiatiques, l'espoir de tout un pays. Elle annule donc aujourd'hui les championnats du Japon en avril. Elle ne parle pas des JO de l'an prochain, pour l'instant dans sa ville natale, Tokyo. Tout le pays la soutient aujourd'hui pour sa nouvelle course, une course contre la maladie et une course contre la montre pour pouvoir replonger dans les bassins au plus vite.
Allez, Amélie Perrier, sous les radars tous les jours, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
L'image, vous l'avez peut-être en tête, plus même que cette voix que vous entendez là, un peu loin dans la chanson de Manu Chao d'ailleurs, l'homme au passe-montagne, avec la pipe qui dépasse, une casquette sur la tête le plus souvent, ou un chapeau melon des Andes, le souk commandant Marcos, qui défendait la cause des Indiens du Chiapas, descendant des Mayas au Mexique. C'était il y a 25 ans, le fameux soulèvement zapatiste au Chiapas. Bonsoir François-Xavier Frelan.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous en revenez de ce Chiapas, et honnêtement, les zapatistes, on les croisait, oubliés. Voilà que cette année, ça a redémarré en fanfare autour d'eux.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Fabienne. Vous entendez derrière moi, entre les deux feux d'artifice, hein, les slogans anticapitalistes, anti-López Obrador, le nouveau président de gauche mexicain. C'était le 31 décembre dernier, en présence discrète du sous-commandant Galeano, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, ex-Marcos, dans la communauté historique de la Realidad, c'est le nom du village, ça se trouve à plusieurs heures de route de la capitale du Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Le chemin est très sinueux, dangereux, à pic dans les montagnes, on est en territoire autonome zapatistes, les pancartes sur le trajet vous le rappellent. Et puis, j'ai eu la chance d'arriver donc un peu dans les derniers, j'avoue, au milieu des guerrieros zapatistes, tous cagoulés, certains armés.
Voilà, donc un réveillon un peu particulier, François-Xavier.
Oui, on commémorait les événements de 1994, dont vous avez parlé, lorsque l'armée zapatiste de libération nationale, menée alors par un jeune métis, le sous-commandant Marcos, devenu célèbre pour son phrasé, ses messages teintés de poésie, s'était soulevé contre les autorités du pays et les politiques néolibérales, mais aussi pour obtenir une reconnaissance des droits indigènes au Mexique, une plus grande autonomie, et notamment au Chiapas, au sud du pays, à la frontière avec le Guatemala, où je me trouve, qui est l'une des régions les plus pauvres du pays et de culture maya. Ce soulèvement, on se souvient, avait fait plusieurs morts, mais avait donné lieu au fameux accord de San Andrés en 1996, qui n'ont jamais vraiment été respectés. En gros, une plus grande reconnaissance et autonomie des communautés indiennes. Depuis, vous l'avez dit, la rébellion zapatiste d'obédience guevariste, hein, du Che Guevara, marxiste-léniniste, très médiatique au début, a connu un léger creux dans les années 2000, Marcos a lui-même pris un peu de recul. En 2014, il s'est rebaptisé donc sous-commandant Galliano, du nom d'un instituteur assassiné. Comme nous le rappelle le spécialiste Jérôme Bachet, qui sort en ce début d'année La rébellion zapatiste chez Flammarion. Il est professeur à l'Université autonome du Chiapas.
Le principal dirigeant de l'EZLN n'est plus le sous-commandant Marcos, mais le sous-commandant Moïses, qui est lui-même un indien de Tseltal. D'une part, il y a une critique très forte depuis le début du personnage Marcos, qui évidemment est un des éléments qui a attiré beaucoup de sympathie, beaucoup d'intérêt, notamment médiatique, mais au détriment peut-être justement de la réalité profonde du mouvement, qui est très ancré dans la réalité, dans la pratique, dans les luttes, dans les traditions des peuples indiens du Chiapas. Donc on a un passage d'un dirigeant métis à un dirigeant indien, ce qui est le signe de l'évolution dans laquelle s'oriente le ZLN.
Un sous-commandant Moïse, donc apparemment plus radical, François-Xavier, pour diriger l'armée zapatiste de libération nationale.
Oui, autant Marcos passait pour un idéaliste, autant le sous-commandant Moïses a un ton plus ferme. On l'entend d'ailleurs derrière moi. Il a eu des mots très durs ce 31 décembre dernier à l'encontre des grands projets miniers, énergétiques et ferroviaires du nouveau président socialiste López Obrador, notamment le fameux train dénommé Maya qui doit rejoindre Cancún, la grande station balnéaire du sud au Chiapas, en passant par le Yucatan. Un train moderne, touristique et culturel, selon les propres mots du président Obrador. Il est même allé se prosterner auprès des derniers représentants mayas pour obtenir grâce. Mais les zapatistes y voient un projet dévastateur pour l'environnement et la culture des peuples indigènes. On écoute Oscar Espino, représentant de l'EZLN, hein, les zapatistes, dans l'état de Veracruz, juste à côté où doit donc passer ce train.
Hoy simulan incluso que le preguntan a la madre tierra cuando es más una...
Aujourd'hui, ils font croire qu'ils demandent autorisation à la Terre-Mère. Mais tout cela ressemble plutôt à du théâtre, soi-disant qu'ils respectent la Terre. Car on sait très bien que ce qu'ils vont faire, c'est la dévaster, en mettant en péril la biodiversité et la mégadiversité culturelle et écologique qui existent dans toute cette région. Ces gens ne vont pas transporter les peuples autochtones. D'ailleurs, ils ne devraient pas s'appeler le train Maya. Car on ne va pas transporter notre culture, ni nos modes de vie. Ce train ne va certainement pas transporter notre mouvement, encore moins notre manière de faire les choses. Ni notre langue, ni nos propres mots font partie de ce projet. Alors nous, on prévient. Nous allons nous défendre.
Tampoco nuestra lengua ni nuestras palabras caben en esos proyectos, pues. Lo que decimos es que sí nos vamos a defender, pues.
Voyez, le plus paradoxal, Fabienne, c'est que le mouvement zapatiste semble refaire surface grâce et contre un président de gauche. En gros, ce sont deux gauches qui pourraient s'affronter au Mexique. L'une, un peu populiste, plus pragmatique, avec un leader, AMLO, hein, López Obrador. Et de l'autre côté, eh bien, cette gauche zapatiste, plus régionaliste, plus écologique, anti-leadership, mais armée. C'est celle donc au visage anonyme, cagoulé des zapatistes.
Le retour des zapatistes 25 ans après leur soulèvement. Un reportage signé François-Xavier Frelan. Merci beaucoup. Allez, on adore les sœurs vénézuélo-cubano-tunisiennes d'IBI sur France Inter. River.
To you. my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again.
Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old means so ashamed. Let the river take them. River, drown them. To your river, I will come to your river. I will come to your river. Come to your river,
wash my soul.
I will come to your river,
wash my soul.
I will come to your river,
wash my soul again.
Carry away my old leaves, let me baptize my soul with the help of your. Pains and complaints, let the river take them, river drown them. My ego and my blame, let me baptize my soul with the help of your waters. Those old me's so ashamed, let the river take them, river drown them.
Les sœurs d'IBI sur France Inter.
3, 2, 1,
Lighter.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is.
Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO et Eva Bétan. Comme tous les mercredis, vous avez de la chance donc Eva, vous avez vu Vice, le film dont tout le monde parle.
Oui.
En ce moment, autour de Dick Cheney, bande annonce d'abord.
What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice.
Well, George, honey, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job.
Uh-huh.
However, if we came to a different...
Dites-moi, Eva, il y a de l'accent hein, là derrière.
Alors, c'est pas mal.
Hollywood primera ce portrait au vitriol du plus bad guy de tous les bad guys de la politique américaine. Va y signer Adam McKay, 8 nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleur acteur pour Christian Bale.
Oui, alors c'est l'histoire pas seulement de lui en tant que vice-président, c'est 40 ans de méchants et déloyaux services envers l'Amérique. C'est un film drôle, vachard, c'est la méthode de McKay. Il raconte l'ascension et l'exercice du pouvoir d'un néoconservateur, mais pas seulement ça. Il y a d'abord une sorte de réaction chimique. C'est un loser quand il est jeune et il rencontre sa femme qui est arriviste et c'est le mélange des deux qui donnera Dick Cheney. Il y a le moment de la révélation. Il comprend cette chose majeure, la jouissance qu'il y a d'être un homme de l'ombre. Alors, quelques flashs, un moment formidable dans le film. Il est encore au début de sa carrière. Il dit à Donald Rumsfeld, mais on croit en quoi? Et Rumsfeld éclate d'un rire, mais énorme. Vous savez, comme les hyènes dans certains dessins animés, il est joué par Steve Carell qui est formidable. Dick Cheney a compris, cynisme absolu, opportuniste, je crois à rien, je n'ai aucun état d'âme, je peux me comporter de la manière la plus atroce, je m'en fous. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est pas juste un vilain parmi d'autres. C'est qu'il dit qu'aux différents postes qu'il a occupés, et justement dans les hommes qu'il a accompagnés, il a eu une trace néfaste très importante sur le pays, sur ses fondements. Un moment important dans cette œuvre de sape, c'est la période Reagan. Adam McKay.
Beaucoup de choses ont commencé avec ce que l'on a appelé la révolution républicaine, ou encore la révolution Reagan, au tout début des années 80. Il y avait cette idée que si vous aviez besoin d'aide, si vous aviez besoin du gouvernement, c'est que vous étiez faible, qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement, qu'il est corrompu. C'était une idée nouvelle. Le gouvernement, jusque-là, c'était ce qui nous unissait. C'est de là que nous tirions notre force. Quand après cela, les républicains sont arrivés au gouvernement, les choses, en effet, ont changé. Je crois que les gens en Amérique aujourd'hui ne croient plus du tout à l'idée d'un gouvernement démocratique, représentatif. Il s'agit d'une véritable crise.
Alors le moment clé, Eva a eu le tout pouvoir, c'est lorsqu'il est vice-président donc de George Bush, George W. Aucun vice-président avant lui n'avait eu autant de pouvoir.
Alors il demande ce pouvoir à Bush, qui le lui donne, et Bush est montré mais comme un crétin absolu. Mmh. Je dis, c'est un film très drôle. Hein. Il est joué par Sam Rockwell, qui est excellent. Et Cheney n'oublie pas ses habitudes d'homme du pouvoir. Il est au courant de tout, par exemple, avant Bush lui-même. Il fait plus que murmurer à son oreille. Il pousse à la guerre en Irak. Et à tout ce qui va avec, notamment faille majeure, erreur majeure, problème majeur, le mensonge.
C'est grâce à la vérité que nous faisons société, que nous sommes une civilisation. La vérité, c'est ce qui nous lie les uns les autres. Vous rompez ce lien si vous dites « Je ne crois pas à votre vérité ». Même si elle est prouvée par les faits confirmés par tous les scientifiques, je n'en ai que faire. Cheney a fait cela, et il a plié la réalité à ses désirs. Un exemple ? Nous sommes le pays le plus puissant au monde militairement, et nous avons envahi un pays sans raison, alors qu'il ne représentait pas une menace. Pourquoi ? Parce que Dick Cheney a dit partout qu'il était une menace. Cela s'est révélé être un mensonge. Les États-Unis, pendant des dizaines et des dizaines d'années, ont été en première ligne pour les droits de l'homme, contre la torture. Et Cheney a conduit les États-Unis à pratiquer la torture. Et il a convaincu un grand nombre d'Américains que c'était une bonne chose.
Et certains le croient encore d'ailleurs.
Oui, mais oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par une forme très drôle, il l'amène à ce que le spectateur se pose des questions importantes. Je rappelle que c'est un film inter, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit précédemment.
Non, mais c'est bien de le dire aussi. Ça s'appelle Vice, ça sort aujourd'hui en salle, évidemment, on a tous hâte. Merci beaucoup, Eva.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Cyril Sauvageau ce soir. Cyril, la flambée inquiétante des actes antisémites en France n'est pas un phénomène isolé. Partout en Europe, ce retour de l'antisémitisme est à l'œuvre, y compris en Allemagne. Les chiffres de 2018 sont parus aujourd'hui. La tendance, là aussi, est à la hausse.
Plus 10%, oui, par rapport à l'année précédente. Ce sont les statistiques de la police fédérale allemande qui ont été rendues publiques ce matin à la demande du groupe parlementaire de gauche au Bundestag, le parti Die Linke. Plus de 1600 actes antisémites recensés en un an, des chiffres qui font froid dans le dos. C'est trois fois plus qu'en France sur la même période, même si, il faut le préciser, les méthodes de recensement de ces actes dans les deux pays ne sont pas tout à fait comparables. Toujours est-il que la tendance observée ces dernières années outre-Rhin se confirme. Là-bas aussi, la parole antisémite se libère, les cas de violence ou d'intimidation tentent à se multiplier, comme l'histoire de cette fillette élève d'une école primaire de Berlin, harcelée par ses camarades de classe parce qu'elle était juive. L'histoire a fait la une de la presse allemande l'an passé et mise en lumière ce phénomène, car même si l'antisémitisme n'a jamais tout à fait disparu en Allemagne, certains mots, certaines attitudes n'étaient pas admises il y a encore 5 à 10 ans. Le poids de l'histoire était tout simplement trop lourd. Et bien, il semble que les choses soient là aussi en train de changer.
Alors, les autorités allemandes, Cyril, s'efforcent pourtant de prendre le problème à bras-le-corps, mais apparemment, c'est pas suffisant.
La nomination il y a un an par Angela Merkel d'un commissaire contre l'antisémitisme a été vue comme un acte fort en Allemagne. Félix Klein, c'est son nom, est une personnalité respecté, impartial, affilié à aucun parti politique, chargé de coordonner donc la lutte contre l'antisémitisme au niveau fédéral. Il a initié plusieurs chantiers pour amener les législateurs à renforcer l'arsenal répressif ou nouer davantage le dialogue avec les responsables religieux musulmans. L'Allemagne a également durci avant la France sa législation sur les contenus appelant à la haine sur les réseaux sociaux. Mais toutes ces initiatives n'ont pas encore porté leurs fruits et régulièrement les faits divers défraient la chronique, comme ce prof d'université juif passé à tabac à Bonn ou ce jeune touriste israélien frappé en pleine rue par un migrant syrien parce qu'il portait une kippa dans Berlin. Des affaires qui ont suscité en retour, il faut le dire, une vraie mobilisation de nombreux Allemands choqués de voir renaître dans leur pays ce poison de l'antisémitisme avec lequel ils pensaient pourtant en avoir fini.
Ben oui, parce qu'on pourrait penser justement que pour des raisons historiques, l'Allemagne serait en quelque sorte immunisée et visiblement c'est pas le cas.
Ben plus vraiment, et c'est vrai que pendant longtemps, toute parole antisémite était proscrite dans le débat public en Allemagne. On n'aurait pas pu imaginer par exemple des propos comme ceux de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, détails de l'histoire. Il y a eu tout un travail de mémoire, un travail très profond d'éducation des jeunes Allemands. Et l'Allemagne est devenue d'ailleurs l'un des endroits les plus sûrs en Europe pour les communautés juives. Alors que s'est-il passé ? Il y a sans doute la conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, Comme partout, le souvenir du nazisme et de la Shoah s'éloigne, il s'estompe et les survivants disparaissent. Et puis ensuite, l'Allemagne a beaucoup changé ces dernières années. Il y a eu d'un côté l'arrivée d'une nouvelle immigration musulmane avec la vague des réfugiés en 2015-2016, des Syriens, des Irakiens notamment, qui pour certains ont apporté avec eux une haine féroce de tout ce qui touche à Israël. Et de l'autre, la montée en puissance de l'extrême droite, au-delà des groupuscules néo-nazis qui sont toujours bien actifs et toujours violents. La droite dure a désormais pignon sur rue, des lignes rouges ont été franchies avec l'entrée en force de l'AfD au Bundestag. C'est à ce nouvel antisémitisme à plusieurs visages que l'Allemagne doit faire face aujourd'hui.
Cyril Sauvageau, Le Monde à l'envers dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.